Figaro Radio.
Le club, le Figaro International.
Philippe Gély.
Depuis quelques semaines, Emmanuel Macron pousse la France en première ligne face à Vladimir Poutine, promettant à l'Ukraine un soutien sans limite et allant jusqu'à envisager l'envoi de troupes au sol. Nous nous sommes dit que cette attitude posait la question de la puissance de la France. Jusqu'à quel point le face-à-face avec la Russie est-il disproportionné? Où en sommes-nous des instruments, au niveau des instruments de la puissance? La France est-elle inexorablement en déclin? Ou doit-elle simplement recalibrer son rôle dans le monde? Nous en parlons avec mes invités juste après le générique. Frédéric Charillon, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris-Cité et à l'Université Clermont-Auvergne. Vous êtes titulaire de la chaire Défense et Leadership à l'ESSEC Business School. Vous êtes spécialiste des relations internationales et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur la diplomatie et la place de la France dans le monde. Nous citerons les plus récents, Guerre d'influence, Les États à la conquête des esprits chez Odile Jacob en 2022 et La France dans le monde, un ouvrage collectif aux éditions du CNRS en 2021. Christian Lequen, vous êtes professeur à Sciences Po Paris, où vos cours portent sur l'Union européenne comme acteur international, ainsi que sur les réseaux et les pratiques de la diplomatie. Vous êtes également professeur invité au Collège d'Europe. Vous avez dirigé le CERI, le Centre d'études et de recherches internationales de Sciences Po. Vous avez enseigné à l'Institut européen de la London School of Economics. Et vous êtes en outre cofondateur et co-rédacteur en chef de la Revue européenne d'études internationales. Vous êtes l'auteur d'une ethnographie du Quai d'Orsay en 2020 aux éditions du CNRS. Et apparaître en mai prochain aux presses de Sciences Po, Le diplomate et les Français de l'étranger, une enquête sur les pratiques de l'État envers sa diaspora. Bertille Bayard, vous êtes chroniqueuse économique au Figaro, vous signez tous les mercredis dans les pages Débat Opinion. Également l'auteur d'une lettre hebdomadaire, Big Business, que vous signez avec constance depuis 136 épisodes, ce qui vous vaut l'admiration de tous vos collègues au Figaro, n'est-ce pas? Et vous êtes l'auteur d'un livre écrit avec Emmanuel Egloff, Le piège, enquête sur la chute de Carlos Ghosn, paru en 2019 aux éditions Kairo. Renaud Girard, vous êtes chroniqueur international au Figaro, vous précédez Bertille Bayard tous les mardis dans les pages Débat Opinion, vous avez bien sûr sillonné la planète pendant plusieurs décennies comme grand reporter, et vous êtes l'auteur d'une bonne douzaine de livres, Quelle diplomatie pour la France en 2017 aux éditions du Cerf, Que reste-t-il de l'Occident, un livre d'échange avec Régis Debray, paru en 2014 chez Grasset. Alors, on va commencer par écouter le président de la République lorsqu'il défie, entre guillemets, Vladimir Poutine, ou du moins qu'il nous met en garde sur une guerre qui est la nôtre. Écoutons-le.
Nous abordons à coup sûr un moment de notre Europe où il conviendra de ne pas être lâche. On ne veut jamais voir les drames qui viennent. On ne veut jamais voir ce qui se joue. Et je crois que nos deux pays ont conscience de ce qui est à l'œuvre en Europe. Du fait que la guerre est revenue sur notre sol, que des puissances devenues inarrêtables sont en train d'étendre la menace, chaque jour de nous attaquer nous-mêmes davantage.
Quant aux pays qui déclarent qu'ils n'ont pas de ligne rouge à l'égard de la Russie, ils doivent comprendre que la Russie n'aura pas non plus de ligne rouge à l'égard de ces pays.
Alors, est-ce que ce face-à-face, cette espèce de mise à niveau de la France via son président avec le président de la Russie, ça vous paraît quelque chose de naturel, Frédéric Charillon? C'est dans l'ordre des choses?
Je ne sais pas s'il y a un face-à-face, parce qu'en réalité, il n'y a pas la France seule d'un côté et la Russie de l'autre. On l'a bien vu, il y a une alliance, il y a une Europe, même s'il y a des voix dissonantes dans cette Europe.
C'est toute la question, n'est-ce pas ?
À la Slovaquie ou à la Hongrie. Mais donc, il y a quand même un bloc européen avec une grande partie des États de l'Union européenne. Il y a, pour le moment, les États-Unis avec l'administration Biden. Donc, c'est un camp qui est ensemble. Là. Il n'y a pas un pays seul. Alors, évidemment, ce qu'il faut éviter, c'est peut-être de donner l'impression qu'il y a ce face-à-face. Ouais. Ce qui est peut-être problématique dans la posture qu'on vient de rendre, même si le début de cette posture me paraît tout à fait juste. C'est-à-dire, il faut faire attention à ne pas tomber dans la lâcheté, et on a souvent tendance à ne pas vouloir voir, la politique de l'Autriche.
La question que pose aussi le président français, Christian Lequen, c'est: est-ce notre guerre ou pas? C'est une question légitime que...
Bien sûr, c'est une question légitime, parce que derrière la guerre et l'invasion de l'Ukraine, il y a également un système de valeurs et un certain nombre d'éléments normatifs. C'est la défense de la démocratie libérale, donc c'est un point important. Mais pour revenir à votre question, je pense que... certes, la France ne peut pas faire seule, et je crois que la France est obligée de composer avec le camp occidental. On verra ce que donneront les élections américaines au mois de novembre prochain. Mais en tout cas, il y a toujours cette volonté française, et ça s'inscrit dans une histoire longue, d'essayer de donner l'impression d'être à l'avant-garde, si vous voulez, un peu des ouais. positions diplomatiques. Mais... Ça, c'est dans l'ADN français, et de ce point de vue, Emmanuel Macron se situe dans la continuité.
Est-ce qu'on entraîne vraiment les Européens lorsqu'on est à l'avant-garde ?
Non, pas forcément. Je crois qu'il y a beaucoup de résistance de la part des autres Européens à l'idée, par exemple, d'une intervention au sol. Enfin, on a bien vu les réactions du chancelier Scholz.
Est-ce que c'est pas tout le problème, Renaud Girard, de cette déclaration du président de la République, qui est qu'en fait, il ne représente pas vraiment les Européens au moment où il le dit ?
Ben, le problème, effectivement, diplomatiquement, c'est que il a commencé à le dire à une conférence de presse. C'est pas cette déclaration-là,
oui, c'était
une précédente.
Ça, c'était à Prague.
C'était à Prague.
Quelques semaines avant le 26 février.
Pas quelques semaines, quelques jours avant Prague.
Début mars.
Et voilà, il avait dit après une conférence qui avait eu lieu à Paris sur le soutien à l'Ukraine. Il avait tenu des propos juste à la fin de cette conférence, mais ses invités étaient déjà partis. Il y avait notamment le chancelier Scholz, qui ne reflétait pas les conclusions de la conférence. Donc diplomatiquement, c'était pour le moins audacieux, sinon discourtois. D'ailleurs, il a eu droit à un rappel à l'ordre assez sec du gouvernement allemand, qui lui dit « Nous sommes ravis de voir le président Macron défendre ainsi l'Ukraine, mais on aimerait que la France investisse plus dans le matériel qu'il fournit à l'Ukraine, parce que je crois que la France fournit 8 fois moins d'armement en valeur, je parle sous votre contrôle, que l'Allemagne. » Mais effectivement, pour les Allemands, il n'était pas question d'envisager de mettre des soldats directement en Ukraine contre l'Europe.
Mais le président français ne représente pas les 27, il ne représente que la France. Et c'est là où on a ce face-à-face, d'ailleurs, pris comme tel par Vladimir Poutine. Vladimir Poutine ne répond pas à toute l'Europe, il répond au président français.
Et voilà pourquoi il va ensuite à Prague. Voilà pourquoi il va ensuite à Prague. Et ensuite, il va à Berlin. Et là, d'une certaine manière, il arrive à avoir, puisqu'il a une sorte d'accord avec le chancelier Scholz et le Premier ministre polonais, il arrive à avoir, grosso modo, toute l'Europe derrière lui, parce que l'Espagne, l'Italie, le Portugal ne protestent pas.
Mais les Allemands sont toujours contre.
À Berlin, l'accord, il y a quand même une conférence à Berlin et le ton est bien meilleur.
Ouais.
Il s'agit bien sûr pas, et d'ailleurs il y a eu, on a aussi un peu reculé, enfin on a mis un peu la pédale douce en France hein, quand même, on a dit qu'on n'allait pas faire la guerre à la Russie, grosso modo, il y a quand même une volonté de l'Allemagne, de la Pologne et de la France de fournir des équipements de manière à ce que les Russes ne profitent pas d'une faiblesse, je dirais, passagère de l'armée ukrainienne pour aller prendre Odessa. Mmh. Et d'attendre, en fait, parce que les Ukrainiens font la même chose que les Russes, ils font leur propre ligne sur Ovikine, leur propre ligne Maginot, et d'attendre qu'il y ait deux lignes Maginot.
On va revenir sur Odessa, parce qu'il y a eu aussi une déclaration du président français. Juste un mot sur la méthode Bertie Baya. En Europe, elle s'applique fréquemment, pas seulement aux questions géopolitiques ou militaires. C'est un peu comme ça que la France fonctionne.
Moi, il m'a semblé, dans le discours d'Emmanuel Macron de ces derniers temps, effectivement, de Prague et puis avant à Paris, qu'il y avait une double dimension au-delà de cette, évidemment, du message principal qui était adressé à la Russie. Il y avait une vocation interne qui est de continuer à monter en puissance dans l'évocation des enjeux pour la France elle-même de ce conflit, qui sont un petit peu oubliés et qui ont tendance à ces enjeux qu'on perd un petit
Certains
peu de vue.
Certains ont même parlé de dimension électorale.
Sans même parler de dimension électorale, qui arrive éventuellement une troisième entrée. Mais voilà, il y a ce côté fatigue de la guerre qui finalement nécessite, il faut remettre à niveau, on va dire, le niveau de conscience par rapport à ce qui se joue dans cette guerre, y compris pour les intérêts de la France. Ça, c'est le premier point et c'est vraiment du discours de politique intérieure. Et ensuite, il y avait le sujet, moi, quand j'ai entendu Emmanuel Macron à Paris, j'ai vu, effectivement, c'était plus qu'une discourtoisie à l'égard d'Olaf Scholz. Ouais. C'était davantage, c'était une façon de vouloir faire bouger l'Allemagne. Voilà, quand il parle des casques et des couvertures, c'est une attaque directe contre ce qui avait été les premières déclarations à Berlin. Et là, on retrouve effectivement ce qu'on retrouve dans une bonne partie du débat européen, qui est ce problème de la mésentente franco-allemande, qui s'incarne principalement entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz.
Qui aujourd'hui est assez public.
Voilà. Sur l'Ukraine, oui. On est quand même sur un problème Scholz et SPD dans la coalition, où finalement, avec les Verts, avec les libéraux de la coalition, et plus tard peut-être, on verra après les prochaines élections en 2025, la CDU. Mais en tout cas, voilà, on voit bien que le problème, il se concentre sur la Scholz. Ça rappelle un petit peu quand Nicolas Sarkozy voulait faire bouger Angela Merkel pendant la crise financière, où il fallait la bousculer, la faire bouger, etc. On a l'impression qu'on retrouve un petit peu cette tactique d'Emmanuel Macron vis-à-vis de la Scholz. On peut dire un mot du franco-allemand,
parce que c'est quand même au cœur toujours du fonctionnement de l'Europe. Aujourd'hui, ça fonctionne particulièrement mal. Votre avis, Christian Lequen ?
Non, ça ne fonctionne pas particulièrement mal, mais il y a, si vous voulez...
Il n'y a pas beaucoup de chimie entre les deux personnages.
Il y a une divergence fondamentale. C'est-à-dire que je partage absolument ce qu'a dit Renaud Girard lorsqu'il mentionnait le fait que finalement, à Prague, à Varsovie ou à Bratislava, quand le président français dit « il ne faut pas abandonner l'Ukraine, y compris intervenir au sol », ça résonne. Simplement, du côté français, il y a toujours cette idée que... raisonner, ça voudrait dire une forme d'autonomie stratégique de l'Europe dans le camp occidental. Et ça, c'est absolument inacceptable pour les centres européens. Pour les centres européens, comme pour les Allemands, et c'est là la grande divergence avec Scholz, il ne peut y avoir de défense de l'Europe qu'avec les États-Unis d'Amérique. Mmh. Voilà. Mais là, c'est une spécificité française aussi. Nous avons eu le général de Gaulle dans notre histoire, et nous sommes isolés sur cette question.
En Europe, le jeu consiste souvent à essayer de dire la même chose tout en pensant des choses différentes.
Oui, mais il y a quand même des vraies divergences, Christian. On a pointé quelques-unes entre la France et l'Allemagne. Je crois qu'il y en a une autre qui est très importante et qui finit par être problématique entre Paris et Berlin, qu'on entend souvent quand il y a des rencontres d'instituts de recherche entre Français et Allemands. Même d'ailleurs, quand on a affaire à des partenaires allemands qui ne sont pas du tout francophobes ni quoi que ce soit. Il y a notamment, par exemple, l'approche de ce qu'on appelle la responsabilité des deux côtés du Rhin. En France, dire on va faire quelque chose, on va intervenir, on prend une posture forte, pour nous, en tout cas pour nos autorités, c'est faire preuve de responsabilité. On a entendu tout à l'heure Emmanuel Macron, c'est une façon de dire notre responsabilité, c'est de dire qu'il ne faut pas se voiler la face, que le problème est là, etc. Pour nos partenaires allemands, souvent, ce genre de discours est au contraire tenu pour quelque chose d'un peu irresponsable. Ils considèrent que c'est va-t-en-guerre. Ils nous soupçonnent parfois de le faire pour des raisons de politique intérieure ou pour la popularité d'un président ou d'un ministre. Et là, je crois qu'il y a vraiment une discorde sur laquelle il faut travailler entre Français et Allemands. Il faut faire comprendre aux Allemands que notre façon de vouloir se mettre en avant, être en pointe de l'action diplomatique, non, ça n'est pas de jouer avec l'international pour se faire mousser sur la scène intérieure, si je puis dire.
Un petit peu, parfois.
Ça arrive, mais je pense qu'il y a une vraie... Je crois que c'est pas absurde
c'est aussi
de dire...
C'est surtout je prends la tête et vous devez suivre.
Bien sûr.
Parce
mais
que je vous montre la voie.
Je crois que c'est pas
voie.
Absurde de dire aujourd'hui qu'il se passe des choses graves en Europe. Mm. Bon, et de la même manière, il faut que nous comprenions que quand les Allemands essayent d'être plus prudents, plus modérés, c'est pas non plus par lâcheté. Nos deux processus de décision sont aussi très très différents, nos histoires sont différentes, nous avons un processus très présidentialisé qui nous permet parfois d'aller plus vite quand on est intervenu au Mali, pas forcément d'ailleurs avec des résultats extraordinaires sur le long terme, mais quand on a fait l'intervention militaire au Mali en janvier 2013, ça s'est passé très très vite. Bon, nos amis allemands ont un autre processus de décision qui est beaucoup plus long, qui engage beaucoup plus d'acteurs, qui va solidifier davantage la décision sur le long terme, mais qui au départ va prendre plus de temps. Il faut qu'on arrive à travailler ensemble et il ne faut pas qu'on s'accuse mutuellement les uns d'être irresponsables en disant tout à tort et à travers sans réfléchir, les autres qu'on va accuser d'être lâches parce que justement ils sont plus modérés que nous.
C'est un peu les mots qu'on a entendus tout de même. Mais parlons de l'OTAN. Est-ce que la France tient son rôle dans l'OTAN ? Est-ce qu'elle est à sa place ? Est-ce qu'elle... Renaud Girard.
Écoutez, maintenant qu'elle est revenue, moi je pense que c'était une erreur de la part de Nicolas Sarkozy de nous avoir... fait revenir dans l'OTAN parce que ça signalait...
Dans le commandement intégré. Hein.
Dans le commandement intégré. Il est bien sûr que le général de Gaulle est resté dans l'Alliance Atlantique et d'ailleurs dans toutes les grandes crises qu'on a eues, il s'est montré le premier allié de l'Amérique, hein, la crise de Berlin ou la crise de Cuba, par exemple. Nous ne voulions pas montrer de suggestions. Nous sommes alliés, mais pas alignés. Et c'était quelque chose d'important, je crois, dans la politique étrangère française. Effectivement, Nicolas Sarkozy, qui n'a pas d'ailleurs brillé dans sa politique étrangère particulièrement, puisque c'est lui qui a fait l'intervention en Libye, que j'ai qualifié dans certains articles de plus grave erreur de politique étrangère de toute la Ve République, il a mis un chaos qui n'est toujours pas résolu, non seulement en Libye, mais dans tout le Sahel. Je pensais que c'était effectivement pas nécessaire de faire ce geste de suggestion sous prétexte qu'on allait nous donner un commandement, qui est en fait un commandement qui n'existe pratiquement pas. Les généraux américains n'en ont jamais entendu parler. C'est une sorte de commandement intellectuel à Norfolk. Tout le monde s'en moque.
Le commandement de la transition.
De la transition, la transformation, personne ne fait. Voilà. Même Philippe, qui était correspondant aux États-Unis, ne connaît pas le titre exact de ce commandement. Donc tout le monde. Et donc, c'est une ligne de suggestion qui nous a un peu. Qui a fait que la France, qui avait une voix un peu à part dans l'Alliance, à part, effectivement, sa voix a diminué. Maintenant que nous sommes rentrés dans l'Alliance, on ne va pas faire des allers-retours. Sans arrêt, et on va y rester une fois pour toutes.
Et on joue le jeu de l'OTAN en ayant cette ambition de souveraineté européenne.
Oui, je crois qu'aujourd'hui on joue le jeu de l'OTAN. On pense à raison, d'ailleurs, Emmanuel Macron a raison, on pense à raison que l'alliance des États-Unis n'est pas éternelle, parce que nous l'avons vécu dans notre chair. Le président Wilson a dit. On a empêché Foch d'aller à Berlin en 18 parce que on avait l'alliance américaine et les Américains nous ont laissé tomber en 1920. Enfin, on a bien vu puisqu'ils nous ont ils nous ont incité à ne pas intervenir lorsqu'il y a eu la remilitarisation de la Rhénanie par Hitler en 36. Ils ne nous ont pas aidés alors malgré un appel à l'aide solennelle de Reynaud en 1940. Nous méfions, nous Français, de l'alliance des États-Unis. On sait que ça peut changer et d'ailleurs avec Trump. On a vu qu'il disait,
On a publié la semaine dernière une interview de John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, qui dit, si Trump est réélu, il quittera très probablement l'OTAN.
Voilà, où il n'appliquera pas l'article 5, enfin peu importe. Et donc nous sommes méfiants, nous avons des raisons historiques d'être méfiants, c'est pour ça que le général de Gaulle s'est doté d'une force de frappe indépendante. Et dans le cadre nécessaire défense de l'Europe, à nouveau à cause des velléités bellicistes de la Russie, eh bien, cette idée d'autonomie stratégique européenne du président Macron, qui est certes aujourd'hui refusée par ces pays du centre-Europe, n'est, à mon avis, pas du tout une mauvaise idée.
On peut la mettre en œuvre parallèlement à l'OTAN, dans les délais qu'impose la guerre en Ukraine ? Frédéric Charillon.
C'est les délais. Il y a beaucoup d'experts, et d'ailleurs aussi des collègues journalistes à vous qui se sont penchés récemment sur cette question. Ce qu'ils mettent en lumière vraiment, c'est le temps qu'il nous faudra aujourd'hui pour remonter en puissance. Là, il y a vraiment un problème de désindustrialisation générale, mais notamment dans le domaine de l'armement. Et ça, c'est la grosse question qui inquiète, parce que quand bien même nous aurions une volonté commune, ce qui en Europe n'est jamais gagné complètement, quand bien même nous aurions une volonté commune, le temps qu'on nous annonce, en tout cas, sauf vraiment un effort majeur, le temps qu'on nous annonce pour une remontée en puissance, il est assez inquiétant. On parle de beaucoup de mois, voire parfois plusieurs années, et on peut se demander si nos adversaires auront la politesse d'attendre.
Bertie Bayard, là-dessus, sur l'industrie, la remise à niveau d'une industrie de défense. Parfois, le président laisse entendre qu'on serait déjà en économie de guerre. On n'est pas vraiment en économie de guerre.
Non, l'économie de guerre, je crois qu'il a commencé à en parler à l'été 2022. Donc ça va bientôt faire 2 ans et on voit bien qu'aujourd'hui, on n'est toujours pas et que c'est aujourd'hui qu'on commence à avancer sur des mesures de type réquisition telles que les a annoncées le ministre des Armées sur les fabrications de MBDA. Effectivement, il y a un processus qui est long. Ça paraît surprenant, mais en même temps, quand on le décortique, on voit bien
qu'est-ce qu'on a l'impression que la Russie a basculé beaucoup plus vite que nous en économie de guerre.
Certes,
parce qu'elle est en guerre, mais tout de même, quand il y a une volonté, et peut-être aussi parce que c'est un État plus dirigiste.
Oui, et certainement aussi, comme la France, mais pas comme le reste de l'Europe, une puissance exportatrice. Donc il y a toujours eu une industrie militaire qui a tourné aussi à vocation export, parce que c'est l'économie russe qui est quand même un profil très particulier qu'on ne peut absolument pas comparer à ce qu'est une économie occidentale de façon générale.
On est condamné à être à la traîne ?
On n'est pas condamné. C'est une question de priorité. Hein. C'est une question de priorité. Mais de fait, le marché domestique européen, j'allais dire, était plutôt en diminution pour les industriels de la défense de façon générale jusqu'à assez récemment. Donc les capacités de production, elles étaient adaptées à ce système-là. Mmh. Il y avait une facilité de se fournir ailleurs qu'on a utilisé parce que c'était moins cher, parce qu'il y avait des gens qui le faisaient très bien, etc. Voilà. Et donc là, se dire, bah, maintenant, il faut qu'on puisse refaire toutes les armes nécessaires dans les délais impartis, ça prend effectivement énormément de temps, avec, on s'en rend compte, des points de faiblesse, de vulnérabilité qui étaient un petit peu passés sous silence. On dit la poudre noire, des choses comme ça qu'on avait totalement oubliées. Voilà, ce qui est un petit peu les commodités, les matières premières bas de gamme de cette industrie, et puis qui finalement se révèle absolument indispensable quand il s'agit de fabriquer des obus au rythme où il faudrait les produire face à ceux que lance la Russie tous les jours.
On reviendra tout à l'heure sur l'aspect militaire des choses. Juste un mot sur l'ONU. Est-ce que la France, est-ce que le siège permanent de la France au Conseil de sécurité de l'ONU est toujours justifié pour vous, Christian Lequen?
Pour la France, il est justifié, en tout cas. Je pense que la France ne veut pas...
Il peut être souhaitable, mais est-ce que c'est objectivement justifié aujourd'hui dans le monde ?
Je ne crois pas à la substitution d'un siège européen au siège français. Ça, je pense que c'est une chimère. En revanche, que l'on change la composition du Conseil de sécurité pour qu'il reflète, si vous voulez, la réalité du monde.
C'est-à-dire l'élargir. C'est-à-dire, accueillir l'Inde,
éventuellement le Brésil. Ça, oui, mais si l'on fait cela, il faut revoir aussi le système décisionnel, car avec le système du veto qui existe actuellement pour les membres permanents, si vous le laissez, plus vous élargissez, plus vous avez la possibilité de bloquer le système. Donc, je crois que c'est du côté de l'élargissement, mais d'un élargissement avec une révision des processus de décision qu'il faut essayer d'avancer. Mais le siège européen, j'y crois absolument pas, et je pense que personne à Paris n'a envie de ce siège européen.
Mmh. Vous écrivez, et d'ailleurs l'ONU en est un peu le symptôme, que la France, finalement, c'est une puissance moyenne avec des ambitions globales. C'est ça notre paradoxe aujourd'hui ?
J'ai écrit ça.
Oui, bon, oui.
oui, bah, c'est vrai. C'est vrai, c'est une puissance moyenne.
Vous avez bien fait d'écrire.
Je m'en souviens. à l'échelle du monde d'aujourd'hui, regardez ces énormes puissances, ne serait-ce que démographiques, que sont l'Inde, la Chine, ou un pays comme le Nigeria, qui est un immense pays également. Mais du côté français, on n'a pas renoncé à avoir une diplomatie globale. Et on joue ce jeu de la diplomatie globale, oui, bien sûr.
On va regarder quelques graphiques qui montrent un peu où la France se classe. Alors, il y a des tas de critères. La démographie, on est 22e. La superficie, on est 28e. Mais si on prend la zone économique exclusive, c'est-à-dire les zones de maritime exclusive, on est 2e au monde.
On a beaucoup de...
Le soft power, c'est-à-dire l'influence, la culture, la langue, on est classé 6e, paraît-il.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui, je vais vous poser la question. on s'attardera plus sur les trois points durs qui sont l'économie, la diplomatie et le militaire. Mais là, je passe un peu en revue. Niveau de développement humain, alors ça, c'est espérance de vie, éducation, revenu par habitant. On est 27e, pas terrible, hein ? Alors, on est quoi ? Parlons de l'économie. Là, le recul est à peu près net, non ? En 1976, la France était 4e économie mondiale, représentant 6% du PIB. Aujourd'hui, 2023, 7e avec 2,6% du PIB mondial.
Si vous comparez avec les États-Unis, il y a un vrai décrochage. Mmh. Moi, je me souviens de mon premier voyage aux États-Unis, ça devait être en 76, justement. Et donc j'étais étudiant, et nous étions un pays que les Américains admiraient. D'abord, nous avions développé le Concorde, c'était le seul, vous voyez, les Américains ne l'avaient pas, avec les Anglais, tout à fait. Nous allions mettre en place le TGV, le train d'ailleurs marchait beaucoup mieux. Il y avait un système social, évidemment, en France, mais qui n'était pas en déficit. Au niveau de vie, on était à peu près pareil. Là, vous avez vu, dans vos graphiques, il y a un véritable décrochage. De même qu'il y avait un véritable décrochage. Dans notre jeunesse, la différence entre le niveau de vie de la France et le niveau de vie de la Suisse n'était pas considérable. Si vous vous souvenez, il y a 40-50 ans, quand on allait en Suisse avec nos parents, pour l'essence, c'était moins cher, il y avait du chocolat, mais c'était pas... Mais là, aujourd'hui, la différence est énorme. Donc, il y a eu un décrochage français économique, je dirais, à partir de Mitterrand, à partir de 81. Ce journal...
On va laisser parler l'expert là-dessus, Bertie
Bayard. Ce journal
n'a
d'ailleurs pas accueilli cette élection comme la meilleure nouvelle du monde en 81, mais effectivement,
Bertie Bayard, il y a eu un décrochage. Le décrochage économique, il est avéré
Oui, il est avéré.
Il est relatif
Les deux à la fois, voilà. Relatif, okay. Évidemment, on est passé du 4e au 6e ou 7e rang mondial en termes de PIB.
Et encore, on ne compte pas, par exemple, la Californie, parce qu'en fait, la Californie, c'est la 6e économie du monde.
Voilà.
Mais bon,
une partie de ce décrochage, c'est la démographie. Hein, donc, voilà. Oui. On ne peut pas non plus, avec 65 millions d'habitants, aspirer à être perpétuellement dans le peloton de tête des économies dans le monde. Après, c'est vrai qu'il y a un décrochage qui est plus... je dirais plus récent. Il y a effectivement pour la France spécifiquement celui qui a commencé à partir des années 80 et qui se traduit beaucoup dans la désindustrialisation. Et puis on a un décrochage de façon générale de l'euro vis-à-vis des États-Unis. Et là on sent qu'il y a une sorte de grand vertige là, depuis
vous
le post-Covid.
Un gouffre de compétitivité.
Oui, c'est vraiment la compétitivité, la productivité qui progresse énormément aux États-Unis et qui a décroché en Europe depuis le Covid. Oui. Le niveau d'investissement en Europe est en train de décrocher malgré tous les discours sur la réindustrialisation, l'économie de guerre aussi, la transition...
Et les causes profondes etc. de ça, c'est quoi selon vous ?
Il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a vraiment un facteur important qui est la technologie. C'est-à-dire qu'on a décroché en Europe sur le sujet tech. Le numérique n'est pas maîtrisé par les Européens. Et l'effet d'entraînement du numérique
Mais on entend des voix, compris celle de Thierry Breton, qui nous disent « on va y arriver ». On sera.
On va rattraper. Il y a un choc de, réalité, de prise de conscience qui est évident. Maintenant, vous avez une capacité d'investissement qui est déployée aux États-Unis en particulier et en Chine par un capitalisme d'État qui est sans commune mesure avec ce qu'on est capable de faire en Europe, y compris de façon cumulée. On pourra y arriver, voilà. Donc, à un moment, il va falloir choisir des combats. Mais voilà, je pense que ce facteur-là de décrochage technologique depuis 20 ans est absolument fondamental dans le problème européen. Ensuite, vous avez des problèmes plus généraux, c'est-à-dire que l'Europe, oui, c'est le premier marché mondial en termes de consommation, mais c'est devenu la troisième, l'Europe entière est devenue, pour le coup, le troisième PIB par rapport aux États-Unis et à la Chine, alors que c'était le premier il y a 20 ans. Et l'Europe, ça reste un marché de 27 pays avec des réglementations différentes. Et donc, un problème de massification, c'est une entreprise qui se crée...
Au niveau du marché, il y a quand même une
on a un marché unique, harmonie. Mais il n'est pas parfait. Et ça n'a pas l'équivalent de ce qu'offre le marché américain.
Ouais.
Et l'autre problème, c'est le marché des capitaux.
Mais le marché américain n'est pas complètement unique non plus. Ce n'est pas les mêmes réglementations pour les voitures en Californie. Et
c'est quand même plus facile avec une langue. Enfin bon, il y a quand même une facilité d'expansion qui est...
Est-ce que le grand coup de maître, puisqu'on est sur ce sujet de Joe Biden, c'est l'IRA, le fait d'avoir subventionné... pour attirer les industries de haute technologie aux États-Unis.
Pour les résultats, je demande encore à voir, parce que le déploiement n'est pas forcément si rapide. Enfin, les industriels européens disent que ça va très très vite. Il y a des choses sur lesquelles je demande encore d'avoir des preuves. En tout cas, ça fait très très peur aux Européens. Ça, c'est sûr, c'est qu'il y a un effet sur les dirigeants politiques européens qui est très net.
Frédéric Charillon, est-ce que l'économie, c'est la mère des batailles et le reste vient ensuite, c'est-à-dire... aussi bien la diplomatie, le militaire, la politique passe après l'économie ?
Je ne sais pas si c'est la mère des batailles, mais c'est le nerf de la guerre, ça c'est sûr. C'est-à-dire que sans économie, on ne peut pas faire grand-chose. Il n'y a pas que ça. On est dans un contexte où il y a une contestation du modèle occidental. Il y a d'abord une contestation parce qu'effectivement, il y a des résultats qui s'amenuisent, il y a des économies occidentales qui ont connu des problèmes. La crise de 2008 est encore dans les mémoires. Donc pour des pays qui donnaient un peu des leçons de bonne gouvernance, comme on disait à l'époque, à d'autres, commettre des erreurs comme celle des fonds ou des investissements pourris ou ce qu'on a vu en 2008, ça a fait beaucoup de mal. Mais il y a aussi un contexte politique qui est l'Occident est devenu aujourd'hui un peu l'ennemi au Sud. On sent que le politiquement correct est aujourd'hui de remettre en cause ça. Et je pense que, par exemple, pour un pays comme la France, vous avez ces effets qui se cumulent. Vous avez un effet économique, c'est certain. Je pense que ça inspire, le pays inspire moins de crainte, évidemment, mais même de respect, parce qu'on voit bien qu'économiquement, il y a un décrochage, on vient de le dire, mais je pense que l'aspect politique est aussi important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on fait le bilan, et c'est pas un procès contre la politique étrangère de qui que ce soit, c'est quelque chose qui s'accumule depuis des années et qui est aussi le fruit du contexte global. Si on regarde aujourd'hui, on a la France est en... on a été sorti d'Afrique. Oui. Quelqu'un me disait au Maghreb il n'y a pas très longtemps, comment voulez-vous, ça revient à votre question de tout à l'heure, comment voulez-vous aller combattre les Russes en Ukraine alors que vous n'avez pas été capable d'empêcher Wagner de vous sortir d'Afrique? Bon, évidemment, dit comme ça,
c'est pas assez...
C'est un peu simpliste, mais ça demande quand même une réponse structurée et convaincante. Quand on regarde nos relations avec le Maghreb, nos... rarement été aussi mauvaises. Bon, avec l'Algérie, elles n'ont jamais été simples. Avec le Maroc, ça va s'arranger, il faut l'espérer. Mais c'est une relation difficile aujourd'hui. La Tunisie, pour des raisons tout à fait différentes, il y avait une transition démocratique qu'on a soutenue, il n'y en a plus maintenant.
Justement,
mais au final, qu'est-ce qui reste?
Est-ce qu'on ne touche pas au syndrome du pays qui se considère comme une puissance, qui donc parle haut et fort à beaucoup de gens sur beaucoup de sujets et ne réussit pas forcément à délivrer...
Très vite. Là, je crois qu'il faut d'abord retrouver une lisibilité du propos, qui n'est pas perçue. C'est-à-dire, ouais. Je crois qu'il y a dans beaucoup de capitales du monde, on se demande quelle est notre posture sur un certain nombre d'événements internationaux importants. Donc je crois que vous avez raison, il y a un peu ce syndrome-là. Et je crois que, surtout, il faut qu'on arrête de se considérer comme une puissance sur le déclin qui commencerait à être un peu rattrapée par d'autres. Je crois que c'est fini. Je veux dire, on est, au contraire, je pense qu'il faudrait presque retourner la logique et se positionner comme un nouvel entrant sur un certain nombre de terrains.
Un pays non, jeune.
Mais l'Afrique, aujourd'hui, est un continent extrêmement jeune. Je pense que des pays comme la Turquie, comme le Maroc, ou beaucoup d'autres, je ne parle même pas de la Chine, et de même des Émirats arabes unis, ou d'autres, sont bien mieux positionnés que nous. Donc il faut que nous cessions de dire nous sommes une puissance de référence, certes un petit peu rattrapée par... Non, je crois que nous sommes sortis du jeu. Il faut qu'on se positionne comme un nouvel entrant en faisant valoir un certain nombre d'atouts avec des propositions.
Christian Le Ken, sur la diplomatie, c'est votre spécialité. J'ai lu il y a quelques temps, très, très récemment, une tribune, d'ailleurs dans le Figaro, je crois, d'un collectif de diplomates qui dit on a perdu deux places, apparemment. On était le troisième réseau diplomatique au monde, on est passé le cinquième. Oui. Les promesses qu'avait faites Emmanuel Macron lorsqu'il a changé le statut des diplomates, de mettre 700 millions d'euros, de créer... Non. Pardon, 3 milliards d'euros et 700 postes, c'est
700 postes.
Sur les recherches d'économie cette année, 60% de l'augmentation a déjà été amputée.
Gelée.
Oui. Bon, est-ce que c'est pertinent pour la France d'avoir encore un réseau universel, entre guillemets? Il y a peu de pays qui ont un réseau diplomatique universel.
Le problème de la France, mais c'est un vieux problème, c'est qu'on est toujours très vocal, si vous voulez, mais on n'a pas forcément les ressources. Mm-hmm. Et nous vivons avec ça depuis fort longtemps. Nous aimons cela même, d'une certaine manière. En quelque sorte, vivre un peu au-dessus de nos moyens et avoir des ambitions qui sont un peu au-dessus de
partout,
nos moyens.
Mais voilà. Certains postes, les diplomates ont du mal à vivre.
Ça atteint des limites, bien entendu. Je partage absolument ce que vient de dire Frédéric. Il faut que nous retrouvions une nouvelle forme d'attractivité. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de vouloir renouer avec l'attractivité du passé. Il faut aujourd'hui que nous soyons effectivement, comme tu l'as très bien dit, comme vous l'avez très bien dit, un nouvel entrant. Et ça, ça implique une ouverture du pays. Ouverture aux étudiants étrangers, qualifiés, ouverture aux investissements, ouverture à la culture. Et c'est vrai que nous sommes dans une société, mais là, comme toutes les sociétés européennes, un peu vieillissante, où on est un peu frileux là-dessus.
C'est une question d'attractivité aussi.
Une phase très très sécuritaire de notre vie nationale. Ouais. Et nous n'avons pas de raison d'avoir aussi peur que nous avons peur, en quelque sorte. Je crois que donc il faut essayer de retrouver de la confiance collective Et ça commence par avoir confiance dans ce que nous sommes, c'est-à-dire arrêter de nous poser la question, est-ce que nous sommes en train de perdre notre identité nationale, ce genre de choses. Bien sûr que non, nous ne perdons pas notre identité nationale, nous sommes français et nous pouvons être fiers d'être français.
Pour vous,
mais le fait de se poser, vous voyez, cette question montre que quelque part nous ne sommes pas sûrs de nous et nous avons besoin de retrouver de l'assurance.
Sur le plan diplomatique, pour vous, on est en recul ou pas ?
Écoutez, on est
en termes d'influence.
Ben, on est en recul aussi parce que le système international a changé.
Oui.
C'est-à-dire qu'il faut quand même se rendre compte. Vous parliez du Conseil de sécurité lorsque nous avons eu ce siège permanent. Qu'était le monde ? Le monde, c'était le monde occidental, États-Unis, Europe, la Chine et l'Union soviétique. Aujourd'hui, ce monde est terminé. Donc nous devons aussi nous adapter à l'émergence de nouvelles puissances que sont, ouais. Que sont la Chine, que sont l'Inde, que sont des pays comme l'Afrique du Sud. Tout ça, nous devons le prendre en compte dans notre, dans notre diplomatie. Et je crois que... Un des avantages de la France, c'est finalement d'avoir toujours été capable de parler à tout le monde. Et je crois que ça, c'est très important. Il faut continuer à parler à tout le monde, y compris à ceux qui ne sont pas démocratiques, car en diplomatie, parfois, vous n'avez pas le choix.
Il faut laisser le politiquement correct de côté. En diplomatie.
En diplomatie, je pense, sans être dupe. Il faut être conscient de ce qu'est la Chine aujourd'hui sur le plan des libertés individuelles. Mais il faut parler à la Chine.
Renaud Girard, récemment, dans une de vos chroniques, vous suggériez que la diplomatie française se concentre sur des zones clés sur lesquelles elle peut avoir une influence. Afrique du Nord, Proche-Orient. Trop l'Ukraine, pour vous ? On n'a pas de levier là-bas ?
On a essayé, la France a essayé, elle a eu raison.
Avec les accords de Minsk. Oui.
Avec les accords de Minsk, la France a essayé d'être un honest broker.
Un intermédiaire impartial.
Sincère, impartial, avec les accords de Minsk. C'était quand même une chose diplomatiquement importante. Je crois que Emmanuel Macron a eu raison de faire tous les efforts diplomatiques qu'il a fait. Mais on peut dire que
C'était quand même un échec.
Les Ukrainiens n'ont pas tout à fait joué le jeu, mais il y a quand même quelqu'un qui a carrément renversé la table de bridge, c'est Vladimir Poutine, alors que c'était...
C'est la dernière médiation diplomatique...
Oui, parce que le reste n'a pas marché.
À laquelle a présidé la France, il n'y en a pas eu depuis.
Non, mais elle a essayé de faire l'Iran, elle a eu raison, mais ça n'a pas marché. La France a essayé de faire la Libye, mais ça n'a pas marché. Elle a essayé de faire le Liban, mais ça n'a pas...
C'est quoi le dernier accord de paix ou international important scellé à l'initiative de la France ?
C'est les accords sur le Cambodge, peut-être.
Les accords de Paris sur le climat ?
2008, le cessez-le-feu en Géorgie aussi.
Les autres n'ont pas fait mieux.
Les autres n'ont pas fait mieux.
Surtout pas les
Charillons.
Non, c'est vrai qu'on reproche souvent à la France, et c'est-à-dire, il faut qu'on s'en prenne à nous-mêmes. C'est-à-dire, on annonce tellement, on fait tellement d'effets d'annonce, vous allez voir, on s'en occupe, qu'à la fin, effectivement, il y a des déceptions. Je ne suis pas sûr que ce soit comme ça qu'il faille mesurer le résultat d'une diplomatie, parce qu'il faut essayer, ce sont des processus très très longs, regardez le Proche-Orient. Bon, c'est pas... Il n'y a rien. Bon, les États-Unis ni les autres... Les États-Unis n'ont pas réussi un certain nombre de processus dans lesquels, parfois, ils se sont investis énormément. Les pays du Sud n'ont pas l'air extrêmement pressés de prendre le relais et de proposer des solutions, surtout pas la Chine. Ouais. Donc c'est vrai qu'on peut reprocher à la France de ne pas aboutir, mais
on peut pas lui reprocher son activisme.
D'essayer, parce qu'il faut bien qu'il y ait des pays qui essayent, et je crois que ça ne peut se faire
sur
que
Gaza,
collectivement.
Sur Gaza, la France aurait un rôle à jouer, selon vous ?
Pas seule.
Oui, mais elle s'est alignée. Mais la France, là, alors, elle a fait peut-être une petite erreur. C'est quand, vous savez, le président Chirac s'était opposé à raison avec Dominique de Villepin à la catastrophique invasion de l'Irak au nom de la démocratie qu'il fallait mettre par la force partout dans le monde. Et ensuite, la France a eu tellement peur d'avoir comme ça osé défier les États-Unis et que le vin français emplisse les caniveaux à Washington, qu'ensuite elle s'est un peu alignée. Par exemple, elle a accepté, ce que je pense a été une erreur, que l'Europe qualifie derrière les États-Unis le Hamas de mouvement terroriste. Alors, ce n'est pas un mouvement que je n'aime pas personnellement, parce que je n'aime pas les frères musulmans, et c'est un mouvement frères musulmans, Mais après tout, en 2006, ce mouvement avait gagné les élections palestiniennes. Et si vous ne maintenez pas un dialogue avec ceux même qui ne sont pas démocratiques, même qui sont frères musulmans, eh bien vous n'arriverez pas à avoir de la diplomatie. Et nous, nous aurions pu jouer précisément dans cette crise-là, puisque nous aurions pu, dans notre centre culturel que vous connaissez bien, Philippe, puisque vous avez été correspondant là-bas, on aurait pu jouer un rôle d'intermédiaire, de discuter, de voir ce
on
qui
se passait. On serait peut-être un peu plus embarrassé aujourd'hui après ce qui s'est passé le 7 octobre.
Ah oui, aussi. D'accord, mais on aurait peut-être pu aussi avertir les Israéliens, essayer de jouer un rôle dès 2007 en gardant. Ben, on était les seuls en gardant une présence diplomatique dans la bande de Gaza. Donc là, je pense que c'est là qu'effectivement l'alignement systématique sur les États-Unis n'est pas une bonne idée. Alors, est-ce que le président Macron a fait effectivement une petite erreur au départ quand il a proposé une sorte de coalition internationale contre le Hamas, comme si on allait envoyer notre porte-avions lorsqu'il aurait été réparé face aux côtes de Gaza, puisque là c'était une faute diplomatique, puisque le mouvement Hamas est un mouvement nationaliste sur place, c'est pas un mouvement internationaliste, donc ça n'a pas de sens de faire une coalition internationale contre le Hamas. Mais après, on ne peut pas reprocher à la France de vouloir que ce qui ressemble quand même à une opération de vengeance, et plus de politique raisonnable, la politique du gouvernement Netanyahou. Ils ont quand même détruit 70% des habitations de 2 millions et 200 000 personnes. Et ils ont quand même tué 33 000 personnes, si vous voulez. Là, il y a un moment où il faut dire stop, et je crois que la France
Chiffre
du Hamas, mais quand on voit les destructions, quand on voit les destructions, on a plutôt tendance à croire ces chiffres, si vous voulez. Et là-dessus, sur cette chose-là, il faut reconnaître que la France a plutôt été suivie par les États-Unis, puisque vous avez vu que, finalement, les États-Unis se sont abstenus à une résolution demandant le cessez-le-feu à Gaza.
Alors, où est-ce que la France est le plus audible ? Commençons peut-être par l'Europe. Est-ce qu'on sait bâtir des coalitions ? Est-ce qu'on sait faire avancer notre point de vue en Europe, ou est-ce que c'est vraiment très aléatoire, Bertie Bayard ?
Sur les questions économiques, on y arrive malgré tout. Alors les événements ont servi évidemment le discours qui était porté par la France depuis quelques années sur les sujets d'autonomie stratégique, etc. Donc, et certainement de plus d'interventionnisme. Donc on garde profondément ancré au sein de l'Europe cette espèce de divergence de fond sur le sujet de l'interventionnisme versus le libéralisme, le protectionnisme versus le libre-échangisme, etc. Donc cette tension-là, elle n'est pas encore résolue, mais c'est clair que le curseur s'est plutôt déplacé vers des positions qui sont plus françaises. Cela dit, dès que la France essaie de capitaliser là-dessus, d'en faire levier pour s'affirmer comme étant un leader un peu incontesté sur le thème, je vous l'avais bien dit, en général, on repart en arrière de deux pas pour avoir essayé de forcer un petit peu trop les choses.
Est-ce qu'il y a pas
sur
un
la
problème
base d'un
de
bilan
méthode.
Qui n'est pas bon.
Est-ce qu'il n'y a pas un problème de méthode ? Il me semble que les Allemands, par exemple, bâtissent des coalitions très en amont, consultent, créent des positions communes à partir aussi de ce qu'ils écoutent, alors que les Français ont peut-être une petite tendance à voir la vérité et à l'exposer à tous les autres et à leur dire « mais regardez comme on est intelligent, on arrive avec la réponse ».
Un petit peu d'arrogance
avant d'avoir posé la question. Attendez, après. Christian Lequen.
Vous avez tout à fait raison, mais ça c'est lié, si vous voulez, à nos cultures de la décision. C'est-à-dire que dans la conception française, le consensus c'est toujours mou. On n'aime pas le consensus. Et on empathie au plan international. Et c'est une grande différence avec l'Allemagne. Les Allemands, c'est d'abord essayer d'avoir le consensus. Ça prend du temps. C'est un peu laborieux.
Ils font ça avec les pays de l'Est. Ils font ça avec les pays d'Europe centrale.
Nous, c'est plutôt la provoque. Et puis, on se dit qu'à partir du moment où on provoque, il va se passer quelque chose et on va trouver un compromis.
Et Emmanuel Macron est une espèce de champion en la matière.
Oui, il aime beaucoup ça.
Il a poussé cette tendance française à son paroxysme.
Voilà, sauf que, si vous voulez, la contrepartie de cela, c'est effectivement d'être taxé de ce que les anglo-américains appellent l'arrogance, quand ils parlent de nous, et les Allemands aussi, arrogance en allemand. Et donc, il faut peut-être qu'on en sorte. Mais oui. Vous savez, ça, vous voyez, derrière ça...
C'est toute une culture nationale.
Vous avez à revoir aussi toute la culture des élites politico-administratives française, etc. Tout ça prend du temps et elle est considérablement stable, cette élite. Elle ne change pas beaucoup.
Oui, Frédéric Charillon.
Il faut qu'on écoute les autres, ça c'est un impératif. D'abord, quand on le fait, ça les surprend très agréablement. À chaque fois que je vois des hauts fonctionnaires français qui ont commencé à Bruxelles par faire le tour des autres, de leurs collègues de différents pays, ils m'ont tous dit c'est extraordinaire, j'ai été accueilli comme une sorte de d'ovni, parce qu'ils me disent mais comment vous venez nous voir pour nous écouter, c'est extraordinaire. Donc je pense qu'on a un boulevard d'une certaine manière. L'autre chose qui va être plus difficile à accepter, je crois que c'est ce qui était précédemment nos domaines, nos champs géographiques de prédilection, parce qu'on estime y avoir une expertise particulière du fait de l'histoire, sont devenues peut-être justement les zones d'influence les plus difficiles d'accès pour nous, parce qu'il y a cette espèce
par exemple,
de
Maghreb,
l'Afrique de l'Ouest. Et ça, je crois que ça va être difficile.
Comment apparaître comme un acteur neuf, ce que vous disiez tout à l'heure ?
Il faut
se régénérer.
Il faut qu'on accepte que ces zones-là, nous avons tout à y prouver maintenant, et ce ne sont plus au contraire des zones d'expertise que nous aurions davantage que d'autres, parce que c'est devenu un handicap, parce que précisément la grande règle du jeu aujourd'hui dans les relations internationales, c'est de s'émanciper, c'est de proclamer sa souveraineté nouvelle, de s'éloigner de l'Occident. Et donc, on est un symbole, précisément, de tout ce dont il faudrait s'éloigner dans certaines...
Ne plus donner de leçons.
Il faut choisir d'abord nos interlocuteurs, il faut proposer d'autres choses importantes à d'autres interlocuteurs, peut-être des partenariats avec des grands pays comme le Brésil, l'Indonésie, etc. Trouver des idées de partenariat à leur proposer où on leur ferait pas le coup, comme on vient de le dire, de dire, on a une idée, suivez-nous. Mais parlons-en ensemble et voyons ensemble ce que nous pourrions proposer ensemble. Ça a déjà été fait. On se souvient quand il y avait... C'était pas des grands traités de paix internationaux, mais c'était pas négligeable non plus. Quand Jacques Chirac, avec Lula, à l'époque, dans la première présidence Lula, avait proposé un système d'aide pour les médicaments à destination des pays du Sud, on avait des idées comme ça de temps en temps. Ça marche. Dire, nous sommes experts de cette région, donc on va vous expliquer, et on va expliquer aux autres Européens, d'ailleurs on va peut-être parfois un peu déborder de notre région, ce qu'il faut faire, ça ne marche plus.
Mm-hmm. Oui, c'est pas donner leçon, vous avez tout à fait raison. Au départ, le discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron a été très bien reçu, parce qu'on dit, les autres pays européens, il y a un jeune leader.
Enfin une nouvelle approche,
un autre leader, un visage neuf. Et après, je pense qu'il a effectivement tué son crédit de deux manières. En donnant des leçons, il a donné des leçons qui n'ont servi à rien, l'Italie, à la Hongrie, à la Pologne, qui sais-je, bon, voilà. Et deuxièmement, aussi par un défaut de méthode. C'est, en fait, vous ne pouvez pas, vous devez, en fait, rayonner par votre exemple, pas par les leçons que vous donnez. Et c'est ce qu'avait fait De Gaulle. Lorsque De Gaulle revient aux affaires, il rétablit les comptes publics. Il rétablit l'ordre.
Je voulais en venir à ce point.
Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est très
important.
Parce
que la condition de la puissance n'est pas l'exemplarité.
Voilà, on ne peut. Évidemment. Et voilà. Et évidemment. C'est seulement que quand la France a été complètement remise les comptes publics, etc., que De Gaulle s'est lancé. C'est à partir de 64, à partir de son grand voyage en Amérique latine, la décolonisation est faite, etc. L'économie va bien. Et c'est là qu'il lance une très grande diplomatie. L'Amérique latine, le discours sur le dollar, le retrait de l'OTAN, le discours sur le Vietnam, etc. Et quand la France est admirée par le monde entier.
Bertie Bayard, sur l'exemplarité, là, pour le coup, on a un problème.
Nous sommes
vous avez écrit dans votre tribune la semaine dernière, on n'a plus un rond.
Ça revient à ça. En gros, on a le déficit commercial américain, le niveau de dette américain, avec un chômage à l'espagnol, et voilà, et un modèle social à la danoise.
Donc on a un petit problème d'exemplarité. Où,
voilà, les données...
Mais vis-à-vis des Allemands, par exemple, c'est évidemment une grande faiblesse.
Évidemment.
Dans le dialogue.
Non, mais clairement, quand on arrive avec des objectifs de politique économique en Europe en ayant ce sujet de désindustrialisation, de déficit public et de déséquilibre, évidemment, il y a un moment où le discours se heurte à un problème de crédibilité. Mmh. Donc, il y aurait probablement à écouter chez les autres ce qu'ils peuvent nous apprendre de la bonne façon de gérer une économie. Donc voilà. Et ce problème-là, il est, on parlait de décrochage tout à l'heure, là, très clairement, sur le sujet des finances publiques, il y a décrochage français avec un basculement plutôt vers la
Russie. Une question un peu iconoclaste liée à ce décrochage. Certains partis politiques n'en ont que faire de la puissance, du concept de puissance, qu'on devrait même y renoncer. Et d'autres, je pense, là, en l'occurrence, c'est plutôt côté mélenchoniste, la puissance, ils pensent que c'est de l'argent gaspillé inutilement. Côté extrême droite, on va nous dire qu'on va confondre puissance et souveraineté. C'est pas la même chose. Est-ce que la France doit renoncer à tous ces schémas mentaux du passé, à cette notion d'être un État puissant ?
Je crois qu'elle doit renoncer à la France. Et c'est là que Emmanuel Macron s'est trompé d'ordre. Il aurait dû d'abord remettre de l'ordre en France et ensuite s'attaquer à une grande politique internationale. Il a fait le contraire. Il a fait une grande politique internationale qui, malgré ses efforts souvent louables, a capoté, on l'a dit. Et là, il essaye de réparer un peu, en 3 ans qui lui restent, ce qui est détruit en France, c'est-à-dire beaucoup de choses, c'est-à-dire la sécurité, c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire les comptes publics, c'est-à-dire la politique migratoire, etc., qui sont effectivement catastrophiques. Et donc...
Il nous reste 1:30 oui, pour donc, faire un tour de table.
Oui, vraiment, en une phrase. Je pense que nous avons les moyens, mais la France ne pourra redevenir la France dans le monde, elle doit rester une puissance qui compte dans le monde, mais si elle rétablit l'ordre et la prospérité chez elle.
Christian Lequen, vous êtes d'accord avec ça ? Ou est-ce qu'en fait, il faut plus s'accrocher à ce concept de puissance ?
Je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, la crédibilité internationale passe par, si vous voulez, la bonne gestion chez soi. Simplement, je me demande comment on réforme les finances publiques dans un pays comme la France. Je veux dire, nous sommes en déficit depuis la fin des années 70.
Il faudra peut-être le faire un jour, non ? Ça commence
aucun
à nous coûter cher.
Aucun gouvernement de droite, aucun gouvernement de gauche n'a jamais réussi à le faire. C'est un peu un pari impossible. Mmh. Ce qui veut dire que la société française n'est pas consciente de cette image que nous envoyons à l'extérieur et préfère que nous vivions au-dessus de nos moyens. Donc c'est un effort collectif du côté de la société qui est nécessaire.
Frédéric Charillon, ça fait du sens de dire bon ben laissons tomber cette notion de puissance.
Non, ça ne fait pas sens. Mais je pense que certains qui ont une approche très différente s'en remettent aussi à d'autres puissances extérieures. Et donc, ce n'est pas tout à fait absurde. Mais je crois que ce qui vient d'être dit est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, aujourd'hui, sans effort, continuer de rayonner. Mmh. Ne serait-ce que parce que, quand nous ne sommes pas exemplaires, à chaque fois qu'on propose des choses, et parfois d'ailleurs elles sont pertinentes, on nous soupçonne de vouloir parler de l'international pour masquer nos propres failles et de donner des leçons pour masquer nos propres faiblesses. Ça, il faut l'éviter absolument.
Alors, plus de leçons de la part de la France. Voilà la grande leçon de cette discussion. Merci à tous les quatre.